En parallèle de la carrière de War Machine, je vous avais dit que suite à Heroes Reborn, il y avait une période de pratiquement 4 ans où on n'avait pas vu James Rhodes dans l'univers Marvel. On n'avait pas vu James Rhodes, mais on avait vu War Machine dans une série qui était sortie sous le label Max et qui s'appelait US War Machine. À l'époque, le label Max se lançait et cette série avait, par son marketing, eu l'avantage de m'intéresser. À une époque où tous les titres étaient à 2,99€, Marvel nous lançait une série à 1,50€, 1,50€, avec des 24 pages noir et blanc, sans pub. Et je me suis dit, ça doit pouvoir fonctionner, il doit pouvoir y avoir quelque chose à en tirer. Je me disais que j'allais aimer cette série, d'abord parce que j'aimais le personnage et que je trouvais que ça devait pouvoir fonctionner. Alors, en tout cas, la forme, elle, m'intéressait. Il y a un petit problème sur cette série.
Austin ?
Chuck Austin. Est-ce que Chuck Austin au scénario, c'est pas toujours terrible ?
Ça oscille entre le médiocre ou le... Allez, pas mauvais, parce qu'il a fait quand même quelques fois des choses qui étaient quand même intéressantes, ou franchement catastrophique, parce que Sandraco, par exemple... Comment redéfinir les origines, essayer de définir les origines Nightcrawler, donc Diablo, et pour faire un truc qui est tellement mauvais que tout le monde a envoyé ça dans les limbes, et avec prière de ne plus y toucher.
Alors là, sur cette série, nouvelle série War Machine, on est très très loin de War Machine, puisqu'on est carrément en dehors du concept d'origine. Puisque dans cette série, War Machine n'est pas lié à Iron Man, mais uniquement au Shield. Et donc, le War Machine est un projet d'armure fait par le Shield. Ils auraient pu appeler ça Mandroids, ça aurait été beaucoup plus cohérent que de l'appeler War Machine.
Mais n'oublie pas que c'est quelque chose qui est dans totalement hors continuité.
Alors maintenant, oui, mais au départ, on ne nous l'avait pas forcément annoncé comme tel.
Quand tu voyais les personnages tels qu'ils étaient... écrit le contraire
en commençant à lire, oui, après dans la promo qui avait été faite à l'époque, ça avait pas été annoncé comme tel.
Mais je pense que surtout ils ont dû à mon avis ils devaient peut-être avoir l'idée de garder ça dans la continuité, mais quand ils ont vu le résultat il y a eu peut-être une décision éditoriale qui a fait que il était urgent d'attendre et de...
c'est vrai que donc, cette série est sortie entre 2001 et 2002, sur 3 mois en fait. Puisque.
C'était un numéro par semaine.
Un numéro par semaine, 12 numéros.
En noir et blanc, avec un style manga assez maladroit aussi. Avec les armures qui ressortaient bien finalement.
En plus, le problème de Stan, c'est qu'il dessine par informatique uniquement. Du coup, il retise les mêmes images à l'infini. Ça avait été catastrophique quand il avait fait les premiers Electra en couleur. Là, en noir et blanc, c'était pas mieux.
Et puis le papier, la qualité du papier n'arrangeait pas les choses non plus.
Ouais, mais après, ça pouvait être un parti pris de dire on veut faire quelque chose à la manga, quoi.
Oui,
mais
c'est vrai.
Il fallait peut-être pas mettre du coup autant de gris. Et peut-être laisser les pages plus blanches.
Ah, mais le jouer sur des trames de gris ou autre, c'est des choses qu'on n'avait plus vues depuis très très longtemps. Quoi.
Le problème, c'est qu'effectivement, il y a des dessins qui sont très mal proportionnés. Là, j'en prends un qui est absolument surréaliste, avec une jeune femme.
Elle est passée, elle a une tête qui est passée chez les Givaro et une poitrine qui a été faite par le chirurgien esthétique de Lola Ferrari, c'est ça?
Non, parce que celui de Lola Ferrari se touche au milieu, ça part comme des grandes toilettes sur les côtés. D'ailleurs, il y en a un qui descend plus bas que l'autre, et de toute façon, chaque sein est a plus de superficie que sa tête.
Oui, mais ce qui n'est pas normal, parce que normalement, il y a toujours un sein qui descend un peu plus que
non. Oh, un peu plus, il passe sous le bras d'ailleurs, si tu regardes bien.
Mais c'est un effet de perspective à la Rob Liefeld.
Ouais, ou alors Chuck Austin a oublié de mettre un bras et puis l'on a redessiné un par-dessus au dernier moment. Non, franchement, cette série est très vilaine. Et puis moi, ce qui m'avait choqué à l'époque, c'est que quand ils ont lancé le label Max avec cette série, avec la série Eternal, ils avaient pour but de faire de l'adulte. Et quand on nous dit on va faire de l'adulte, on se dit ils vont tenter de faire du Vertigo.
Non, ben là ça a été du cul pour Eternal et du sang pour War Machine. Voilà. Et même un petit peu de sang aussi sur Eternal.
Ouais, mais après le sang sur Eternal était moins gênant. Chez Eternal, c'était juste le fait qu'ils partent tous à longueur d'épisode pour remplir le truc.
Mais c'était quand même mieux dessiné en plus.
Ah ben,
et un peu mieux scénarisé.
C'est clair que là-dessus, on ne peut pas dire. Le dessin était de Pascal Alix. Non, attends, non, j'ai un doute. Non,
je ne crois pas.
Non, c'était le dessinateur qui a repris les jeunes après Quapel.
Là, je ne peux pas t'aider.
Ça va nous revenir.
Parce que les jeunes, c'était pas une des séries que je suivais régulièrement.
Tu as tort. Donc là, en tout cas, sur War Machine, moi déjà, dès le premier épisode, j'ai hurlé en lisant le truc parce qu'effectivement, bon, voilà, l'AIM attaque, ils volent un fourgon blindé, War Machine les poursuit. Sauf que quand War Machine commence à envoyer des roquettes à travers la tête du mec et avec de la cervelle qui retabisse tout l'autoroute, c'est un peu too much. C'est même pas...
En plus, c'était un peu avec pas beaucoup de pages. Enfin, c'était douzaine de pages, non?
Alors, ben, les épisodes faisaient 16 pages, si je me rappelle bien. Donc, sans pub. Alors, 5, 6, 7, 8. Et j'ai la graphe. Voilà, 16 pages sans pub à chaque fois.
Yes.
Donc, mais graphiquement, donc il n'y avait pas un War Machine. Donc, il y avait effectivement ce bataillon de War Machine qui était donc dirigé par Nick Fury et le Shield.
Et Dum-Dum Dugan avec son célèbre chapeau melon sur une armure.
C'était...
Ça, c'était assez terrible.
Ah oui, non, mais il y avait des choses effectivement qui étaient catastrophiques dans cette série. Il y a eu une deuxième série qui avait été faite en trois parties que moi j'ai pas lu.
Ce qui était le plus intéressant, c'était les vilains dans cette série là qui étaient avec la IM, t'avais Crâne Rouge aussi qui se retrouvait derrière et Fatalis, non? Ou
c'était un deuxième, je crois. Mais
oui, après il y avait quand même pas grand chose à en sauver.
Voilà, il y avait pas grand chose à en sauver. Il y avait quand même une tendance à vouloir vérifier
de la surenchère.
À essayer d'avoir un public de manga. S'il y avait effectivement Fatalis dans celle-là, exact. Il voulait donc un public de manga. Il voulait aussi jouer sur ce côté hyper violent et refaire des histoires de mecha chez Marvel. Ils avaient annoncé donc cette mini-série, donc War Machine 2.0, et ils avaient aussi annoncé deux graphic novels, je crois, qui n'ont jamais vu le jour.
Encore heureux.
Si c'était pour nous vendre au prix du graphic novel du dessin de Chuck Austen. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, je pense, le ratage, alors que pourtant, moi, personnellement, c'était vraiment la série que j'avais envie de lire et d'aimer à l'époque.
Il pouvait y avoir un potentiel, mais effectivement, qui a été déçu.
C'était... oui. Donc là, en tout cas, c'est, je pense, la plus grosse déception qu'on peut avoir sur le personnage de War Machine. Autant sur tout ce dont on a pu vous parler sur la carrière de James Rhodes, on peut vous encourager à le lire, parce que les différentes séries sont vraiment de qualité. Autant, moi, sur celle-là, j'arriverai pas à vous en dire du bien.
Puis aussi, relisez la période de enfin la première apparition de War Machine dans les Iron Man. Toute la période de Kevin Hopgood et de Len Kaminski est une petite merveille, sous-estimée, mais pourtant.
Mais effectivement, c'est ce que je vous disais d'ailleurs il y a 15 jours. C'est vraiment un très grand moment dans la série Iron Man. La création de cette armure blanche et grise à l'époque sous le nom d'Iron Man donnait vraiment lieu à une très bonne époque avec quand même un souffle épique qui manque aujourd'hui à beaucoup de séries.